France Musique.
The next stop is 42nd Street.
Come here, Vinny.
Laurent Vallière, 42e rue.
Bonjour à tous. Au théâtre et au royaume du théâtre musical, il est aujourd'hui son prophète. À même pas 40 ans, le colossal succès d'Hamilton, sa seulement troisième comédie musicale, a marqué l'entrée de ce genre dans le 21e siècle. Les places de ce spectacle archi-complet depuis 3 ans se vendent à plus de 1000 euros au marché noir. Lin-Manuel Miranda a non seulement incarné le rôle-titre, mais écrit le livret, les paroles et composé les chansons. Ce petit génie né d'origine portoricaine est adoubé par les plus grands de Broadway. Stephen Sondheim, le parolier de West Side Story, lui a confié par exemple l'adaptation en espagnol des chansons des Sharks dans une reprise du spectacle il y a 10 ans. Et puis, il porte une voix contemporaine par le style musical, des comédies musicales qui utilisent le hip-hop, le rap, et par sa portée politique. Il n'a pas eu peur de faire apostropher le vice-président américain Mike Pence lors de sa venue à Hamilton par la troupe. Lin-Manuel Miranda est à l'affiche du retour de Mary Poppins, 54 ans plus tard, un nouveau film qui sort mercredi, dans lequel il joue aux côtés d'Emily Blunt. Il était à Paris cette semaine et il est bien sûr venu sur la 42e rue de France Musique. En anglais, on dit 42nd Street.
Bonjour, je m'appelle Lin-Manuel Miranda. You're listening to 42nd Street.
Bucks and mares, cubs and does, welcome to our show of shows. It is my great honor to introduce this evening's renowned guest. The one, the only, Mary Poppins!
Thank you.
Sing for us, Mary Poppins!
No. Come on, have a go.
No, I haven't sung in years.
Sing for us, Mary Poppins.
Do sing for us, please.
No, I couldn't possibly. D flat major.
Uncle Gutenberg was a bookworm, and he lived on Charing Cross. The memory of his volumes brings a smile. He would read me lots of stories when he wasn't on the source. Now I'd like to share the wisdom of my favorite bibliophile. He said,
cover is not the book, so open it up and take a look. Under the covers, one discovers that the king may be a crook. Chapter titles are like signs, and if you read between the lines, you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book.
Mary Poppins, could you give us an example?
Certainly. Nellie Rubina was made of wood, but what could not be seen was though her trunk up top was barren, well her roots were lush and green. So in spring when Mr. Hickory saw her blossoms blooming there, he took root despite her bark, and now there's seedlings everywhere.
Which proves the cover is not the book, so open it up and take a look, cause under the covers one discovers that the king may be a crook.
Chapter titles are like signs,
and if you read between the lines,
you'll find your first impression was mistook. For a cover is nice, but a cover is not the book.
Shall we do the one about the wealthy widow?
Oh, by all means.
Always loved that one.
Well, go on then.
Lady Hyacinth McCaw brought all her treasures to a reef,
where she only wore a smile,
plus 2 feathers and a leaf.
So no one tried to rob her, cause she barely wore a stitch.
For when you're in your birthday suit, there ain't much there to show you're rich.
Oh, a cover is not the book, so open it up and take a look, cause under the covers one discovers that the king may be a crook. Ta-roo-ra-lee, ta-roo-ra-la, ta-roo-ra-lee, ta-ra-ta-ta.
You'll find your first impression was mistook.
Ya-da-da-da.
For a cover is nice, but a cover is not the book.
Oh, give us the one about the dirty rascal, why don't you?
Isn't that one a bit long?
Well, the quicker you're into it, the quicker you're out of it.
Once upon a time in a nursery rhyme, there was a castle with a king hiding in a wing, cause he never went to school to learn a single thing. He had scepters and swords and a parliament of lords, but on the inside he was sad, egad, because he never had a wisdom for numbers, a wisdom for words. Though his crown was quite immense, his brain was smaller than a bird's. So the queen of the nation made a royal proclamation to the misses and the messers, the more or lessers, bring me all the land's professors. Then she went to the hairdressers, and they came from the east, and they came from the south. From each college they put knowledge from their brains into his mouth, but the king couldn't learn, so each professor met their fate, for the queen had their heads removed and placed upon the gate. And on that date, I stayed there once, I got a note, their mate was now the late great. But then suddenly one day a stranger started in to sing. He said, I'm the dirty rascal and I'm here to teach the king. And the queen clutched the jewels, for she hated royal fools. But this fool had some rules they really ought to teach in schools. Like, you'll be a happy king if you enjoy the things you've got. You should never try to be the kind of person that you're not. So they sang and they laughed, for the king had found a friend. And they ran onto a rainbow for the story's perfect end. So the moral is, you mustn't let the outside be the guide, for it's not so cut and dried. Well, unless it's Dr. Jekyll, then you better hide. Petrified! No, the truth can't be denied, as I now have testified. All that really counts and matters is the special stuff inside.
Oh, what cover is not the book, so open it up and take a look, cos under the covers one discovers that the king may be a crook.
So please listen to what we've said
and open a book tonight in bed.
So one more time before we get the hook,
sing it out strong.
A cover is not.
Please take our advice.
A cover is not.
You'll pay the price.
Une couverture, ce n'est pas un livre. Cover is not a book. C'est un premier extrait de ce retour de Mary Poppins qui sort mercredi au cinéma, un film de Rob Marshall. Des chansons signées Mark Shyman et Scott Whitman, les auteurs de Hairspray, avec Emily Blunt qui reprend le rôle iconique de Mary Poppins créé par Julie Andrews et Lin-Manuel Miranda, notre invité ce matin, qui incarne un allumeur de réverbères. L'histoire se déroule 25 ans après le tout premier film. Les enfants, Michael et Jane, ont bien grandi. Michael a deux enfants. Et Lin-Manuel Miranda, vous êtes un ancien apprenti de Bert, le ramoneur qui a été joué par Dick Van Dyke. Alors je suis avec notre traducteur Xavier Combes. Première question, Lin-Manuel Miranda, pourquoi avez-vous accepté de jouer dans cette suite de Mary Poppins ?
I mean, who would ever imagine a sequel to Mary Poppins?
Qui aurait pu envisager une suite à Mary Poppins? C'est ça qui m'a passionné. Et ce qui m'a le plus passionné, c'est de travailler avec Rob Marshall et Emily Blunt. Rob Marshall, à mon avis, c'est l'un des meilleurs metteurs en scène de comédie musicale moderne. Il n'a fait que des adaptations brillantes. Nine, Chicago, Into the Woods. Je ne pouvais pas refuser de travailler avec lui pour sa première adaptation d'un film.
Est-ce que c'est vrai que vous avez vu tard seulement le film Mary Poppins en entier?
It's true. Feed the Birds.
Oui, c'est vrai. Au moment de Feed the Birds, j'ai envie d'éteindre le film. C'est l'une des mélodies en mode mineur les plus pesantes et les plus belles de l'histoire du cinéma. Moi, j'ai passé des heures à danser sur Supercalifragilisticexpialidocious ou Jolly Holiday. Puis arrive Feed the Birds et moi j'éteins.
Alors, à quel âge vous l'avez regardé en entier, ce film Mary Poppins, Lin-Manuel Miranda?
Probably high school.
Oh, je devais être au lycée. Quand j'avais l'âge de m'attaquer à Feed the Birds et en comprendre tout le sens, j'adorais Mary Poppins. Mais j'étais très sensible aux musiques tristes quand j'étais enfant. J'adore les deux premiers tiers du film quand je suis gamin, mais la tristesse de ce morceau et cette pauvre femme qui demande à Toppins de donner à manger aux oiseaux, c'est trop pour moi quand je suis gamin. En tout cas, ça m'a montré le pouvoir qu'a la musique d'éveiller vos émotions.
Misty morning showers, I greet the dawn. For when its light has hit the ground, there's lots of treasures to be found underneath the lovely London sky. Though the lamps I'm turning down, please don't feel blue. For in this part of London town, the light shines through. Don't believe the things you've read,
you never know what's up ahead underneath the lovely London sky. Have a pot of tea, mend your broken cup. There's a different point of view awaiting you if you would just look up. I know yesterday you had to borrow from your chums. Seems the promise of tomorrow never comes. But since you dreamed the night away, tomorrow's here, it's called today. So count your blessings, you're a lucky guy, for you're underneath the lovely London sky. Disappear, it won't be long. Sooner than you think you'll hear some bright new song. So hold on tight to those you love, and maybe soon from up above you'll be blessed, so keep on looking high. While you're underneath the lovely London
Underneath the Lovely Land of Sky, c'était Lin-Manuel Miranda, un second extrait du nouveau film Le Retour de Mary Poppins, avec Emily Blunt dans le rôle de la super nanny qui n'a pas vieilli. Lin-Manuel Miranda est notre invité ce matin sur la 42e rue. Vous avez écrit, composé et interprété notamment deux comédies musicales, Hamilton et In the Heights, deux spectacles qui ont reçu en 2008 et 2015, excusez du peu, le prestigieux Tony Award de la meilleure comédie musicale à Broadway. Et là, dans Mary Poppins, vous êtes Jack, c'est donc l'ami londonien de Mary Poppins, à l'humeur de réverbère dans ce Londres des années 30, et pour une fois, c'est un rôle que vous n'avez pas écrit.
In that way, I started writing.
Oui, vous savez, je me suis mis à écrire The Heights, ma première comédie musicale, parce que je voulais faire des comédies musicales. Mais il n'y avait pas de rôle pour moi. Les rôles pour les Latinos sont très rares. On pense à West Side Story, il y a quelques répliques dans Chorus Line, mais ça s'arrête là pour les Portoricains. Donc, moi, je me suis mis à écrire pour avoir mes propres rôles. Par la suite, pouvoir travailler avec une équipe artistique de ce calibre, c'est comme la récompense de tous ces efforts que j'ai faits en créant mes propres rôles jusqu'à ce que des gens me repèrent pour un rôle dans leur propre production.
Alors votre Jack, dans ce Retour de Mary Poppins, c'est très moderne. Vous avez pris l'accent cockney, mais ce n'est pas le même que celui de Bert dans le premier Mary Poppins.
De toute façon, c'est impossible de refaire du Dick Van Dyke. Ce personnage, c'est lui. Pour moi, la clé, c'est que Jack a le même âge que Michael et Jane Banks. Dans le film, Michael et Jane Banks vivent dans cette belle maison sur Cherry Tree Lane, pendant que Jack est cireur de chaussures quelque part en tant qu'apprenti de Bert Hughes. Mais Jack, lui, il sait que la magie de Mary, c'est pour de vrai. Michael et Jane Banks l'ont oublié. Quand le spectateur rencontre Michael et Jane Banks, ils disent « Oh, ces aventures avec Mary Poppins, c'était imaginaire, on les a inventées. » Donc, ils ont rationalisé la chose. Mais Jack, lui, il sait que c'est la réalité. Donc, pour moi, le trait de caractère le plus important de Jack, c'est l'enfant qui est en lui qui ressort.
Et il est très moderne, votre Jack, d'ailleurs. On l'a entendu tout à l'heure dans la première chanson, il rappe.
Oui, mais tout le monde a oublié que Bert rappe. Bert rappe dans Jolly Holiday. Vous l'avez oublié? Dans Jolly Holiday, Bert fait du rap. Réécoutez-le. Vous savez, tous étaient distraits par la scène du pingouin. Il rappe à propos d'autres femmes et il provoque la jalousie de Mary Poppins. Il fait... Vous faites ça, faites écouter ça à vos auditeurs. Tout le monde a oublié qu'il rappe. Les adultes ont tendance à oublier ça. Bref, il rappe, Mary Poppins est jalouse, puis il dit, mais Mary est la meilleure de toutes. Et elle dit... Voilà, elle dit ça, il continue la scène. Alors, même la séquence de rap, moi j'adore rapper personnellement, hein. Pas mal de gens le savent. Et dans le spectacle, mon personnage fait un clin d'œil à cette séquence du film.
Anything for you, Mary Poppins. You're our favorite person.
Right you are. It's true that Mavis and Sybil have ways that are winning, and Prudence and Gwendolyn set you are spinning. Phoebe delightful, Maud is disarming.
Janice?
Felicia?
Lydia?
Charming. Cynthia's dashing, Vivian sweet, Stephanie smashing, Priscilla a treat.
Veronica?
Millicent?
Agnes?
And Jane?
Convivial company, diamond again. Dorcas and Phyllis and Glynis are sorts. I'll agreeth, we jolly good sports, but cream of the crop, dip of the top, it's Mary Poppins and there we stop.
Hoy me siento tan hermosa, tan graciosa que puedo volar. Y no hay diosa en el mundo que me va a cansar. Hoy me siento encantadora, atrayente, atractiva, sin par. Y ahora ni una estrella me podrá opacar. Qué bonita faz, qué bonita atrás, qué bonita forma de ser. Qué radiante, luminosa, veo el mundo con mucho color. Porque sé que un buen pastor.
En 2008, le librettiste de West Side Story, Arthur Lawrence, avait remonté à Broadway le spectacle. Il voulait un spectacle encore plus réaliste. Et il souhaitait du coup que les Portoricains, les Sharks, parlent en espagnol. C'est à Lin-Manuel Miranda qu'il avait confié la traduction de « I Feel Pretty ». C'était « Me Siento Hermosa » par Josefa Scaglione. Et puis juste auparavant, effectivement, du rap en 1964 dans Mary Poppins, c'était Dick Van Dyke. Lin-Manuel Miranda, roi du rap, est l'invité exceptionnel de 42e rue aujourd'hui sur France Musique. Je rappelle votre parcours. Vous êtes vraiment l'enfant prodige de Broadway. On vous doit le renouveau de la comédie musicale, son entrée dans le 21e siècle et à nouveau, je dois dire, au hit parade des meilleures ventes de disques. En 2016, Time Magazine vous a mis à la une de son édition consacrée aux personnalités les plus influentes de l'année. Et vous avez collectionné les trophées, un prix Pulitzer, 3 Tony Awards, 3 Grammy Awards et 1 Emmy Awards. Comment Lin-Manuel Miranda a commencé votre passion pour la comédie musicale ?
Ça a commencé parce que mes parents adoraient ça. Ils avaient plein d'albums de Broadway. On n'avait pas assez d'argent pour aller au spectacle. Mais moi, j'écoutais ces albums de Broadway en boucle. Dans la voiture, ma mère écoutait Camelot, L'Homme de la Mancha, La Mélodie du Bonheur. Le film préféré de mon père, c'est La Reine du Colorado avec Debbie Reynolds. Donc voilà ce qu'on écoutait en boucle chez moi quand j'étais gamin. En fait, j'ai jamais eu le choix, en fait. Je baignais dans les comédies musicales. Je crois que je suis attiré par les musiques qui racontent une histoire. Peu importe le genre. S'il y a une histoire, moi je suis preneur, je suis happé. Ça peut être Kenny Rogers qui chante Le Joueur ou Tupac qui chante Brenda's Got a Baby. Moi ce qui m'intéresse, c'est les musiques qui racontent une histoire, depuis toujours.
Alors, je crois que votre père, Lin-Manuel Miranda, était président du fan club de Debbie Reynolds. On connaît Debbie Reynolds, la fiancée de Gene Kelly dans Chantons sous la pluie. Quel titre de Debbie Reynolds aimeriez-vous partager avec les auditeurs de France Musique aujourd'hui ?
Oh, you should play Belly Up to the Bar Boys de la film La Reine du Colorado.
Belly Up to the Bar Boys. I don't know what about it resonated with my father so much.
Mon père était dingue du personnage. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute à cause de son sens du mouvement. Ses origines ne lui dictent pas sa vie à ce personnage. Elle aurait pu naître dans un milieu analphabète au fin fond des bois dans le Colorado, mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas faire de ma vie ce que je veux. Voilà, c'est un personnage comme ça. C'est ça qui plaisait tant à mon père. C'est pour ça que c'est son film préféré.
Debbie Reynolds, extrait du film de Charles Waters en 1964, La Reine du Colorado.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Avec Lin-Manuel Miranda, on a bien compris que vos parents vous inondaient de comédies musicales dans votre jeunesse. Mais franchement, vos amis ne se moquaient pas de vous lorsque vous leur disiez que vous aimiez les comédies musicales ?
Non, pas vraiment. J'ai eu de la chance, parce que dans mon école, on faisait du théâtre et on faisait des comédies musicales. Je me souviens que le grand moment à l'école primaire, c'est quand les CM2 montaient une comédie musicale. Nous, en CM2, on a fait des pastiches de 20 minutes de 6 comédies musicales différentes. C'était un boulot énorme. Hein. C'était un spectacle de 4 heures. Moi, je faisais Bernardo dans West Side Story, Munchkin dans Le Magicien Chien d'Oz, Le Capitaine Crochet, Un fermier de l'Oklahoma, Conrad Birdie dans Bye Bye Birdie, et puis je faisais aussi Un des fils dans Un violon sur le toit. C'est une overdose de comédie musicale pour un gamin, ça. Mais on adorait ça. Et en CM2, on faisait que ça. Et après, je ne pouvais strictement rien envisager d'autre.
Alors, même si vous habitiez New York, vous nous avez dit que vous alliez rarement à Broadway, c'était trop cher. Quel spectacle vous avez vu ? Quels spectacles vous ont marqué ?
Broadway, c'était cher à l'époque et ça reste cher. Moi, je suis né en 1980. Et la Sainte Trinité des comédies musicales que j'ai vues, c'était celle des années 80. J'ai vu Cats, Les Misérables, Le Fantôme de l'Opéra. Les Misérables, c'était ma première comédie musicale. Je me souviens de mon expérience de spectateur. Je me souviens que ma mère a acheté l'enregistrement et quand elle écoutait Bring Him Home, Ramenez-le à la maison, chanté par le grand Cole Wilkinson, elle fondait en larmes, un peu comme moi à la mort de Fantine en voyant Les Misérables. Le fait de voir l'effet que produisait la musique sur mes parents, ça m'a donné l'envie d'émouvoir les gens. Moi aussi. Moi, je voulais que les gens soient émus. Comme Jean Valjean pouvait émouvoir ma mère.
Bring him home.
Colm Wilkinson dans Les Misérables à Broadway de Claude-Michel Schoenberg et Alain Boublil. Bring Him Home. Lin-Manuel Miranda à l'affiche du retour de Mary Poppins, l'auteur, l'acteur de Hamilton, la comédie musicale, est l'invité de la 42e rue aujourd'hui. Sur France Musique, on découvre comment vous avez débuté, comment est né ce goût pour écrire des comédies musicales. En 1997, vous découvrez Rent de Jonathan Larson. C'est la bohème, la vie de bohème en comédie musicale rock située à l'époque du sida à New York. Pourquoi vous dites que ce spectacle a été important pour vous ?
Rent was a game changer for me.
Rent, ça a été le déclic pour moi. C'est à ce moment-là que je ne voulais plus être simple spectateur ou fan de comédie musicale. J'ai voulu écrire des comédies musicales. Rent, c'était la première comédie musicale que je trouvais vraiment contemporaine. J'avais 17 ans quand je l'ai vue. Hein. À cette époque, même Chorus Line, c'était une œuvre quasi historique. C'était pas du tout contemporain, Chorus Line. Ils étaient habillés comme dans les 70s. C'était très 70s. C'était l'époque de mes parents, tout ça. Tandis que Rent, ça se passait à New York, dans le présent. Ans, en pleine crise du sida.
Et
je me suis dit, voilà un type qui a écrit une histoire sur son ami, sa vie, ses problèmes. Alors pourquoi pas moi ? Jusqu'à ce moment-là, les comédies musicales étaient écrites par d'autres, ailleurs. Évidemment, moi j'ai grandi avec Cats et le fantôme de l'opéra, c'est normal. Hein. Mais Rent, c'est la comédie musicale qui m'a donné l'autorisation de travailler la musique que j'aime vraiment. Jonathan Larson, il aimait le rock. Moi, je suis plutôt hip-hop ou musique latino. Rent, ça a été comme un feu vert qui m'a autorisé à devenir acteur.
Alors, est-ce que Rent vous a du coup donné l'impulsion de vous mettre à écrire des comédies musicales, Lin-Manuel Miranda ?
Oui.
C'est là que j'ai voulu être auteur, à écrire au lycée. Grâce à Rent, j'ai écrit deux comédies musicales de 20 minutes en un acte. La première s'appelait « Cauchemar en ré majeur ». C'était à propos d'un cauchemar que j'avais fait. Et la seconde s'appelait « 7 minutes au paradis ». C'était à propos de la première fête où je suis allé non accompagné d'un adulte en sixième. Vous savez, le moment où les filles et les garçons délaissent leurs jouets et commencent à se regarder avec intérêt en se disant « Oh là 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 là, ça va beaucoup trop vite, ça ». En fait, je suis assez fier de ces comédies musicales. Elles ressemblent un petit peu à Rent. Il y a du hip-hop dans les deux, d'ailleurs. Il y a toujours eu du hip-hop dans les comédies musicales, même dans les premières. Hein. En fait, je prenais mon modèle sur ce que j'aimais beaucoup, et ce n'est que dans The Heights que j'ai commencé à intégrer la musique latino et le hip-hop de mon adolescence. Et c'est là que j'ai commencé à trouver ma propre voix comme compositeur.
Daphné, Rubin Vega, Anthony Rapp, Another Day, extrait de Rent en 1997 à Broadway. Lin-Manuel Miranda avant Hamilton, cet énorme succès à l'affiche actuellement à Broadway et à Londres. Il y a d'abord In the Heights, Washington Heights. C'est un quartier de New York au nord de Manhattan où vit la population dominicaine. Vos parents sont portoricains. Et cette comédie musicale raconte trois jours dans la vie de ce petit quartier dont on découvre chacun des habitants. Je crois que vous commencez à l'écrire en 1999 à la fac, Wesleyan University. C'est un spectacle qui va remporter 10 ans plus tard, lorsqu'il va apparaître à Broadway, le Tony Award de la meilleure comédie musicale. Ça aussi, c'était autobiographique.
Not in any specific details. I didn't own a bodega.
De façon très précisément, moi, j'avais pas une bodega à l'époque. Hein. Mais du point de vue de mes sentiments et du point de vue des sentiments de ma co-auteure Chiara, elle, elle a grandi dans les quartiers nord de Philadelphie et moi dans les quartiers nord de New York. Donc, on écrivait à propos des communautés d'immigrés. On vit, nous, où personne d'autre ne voudrait vivre. Puis on améliore le quartier, il devient tellement agréable à vivre que d'autres s'y installent et nous, on n'a plus les moyens d'y vivre. Et c'est ça, le spectacle. Donc il y a des détails autobiographiques. Par exemple, Kevin, Camilla, Daniela, tout ça, c'est mes cousins à Porto Rico. Kuka, c'est un autre personnage, c'est une cousine de Chiara. Graffiti Pete, alors lui, c'est inspiré du cousin du côté de ma mère. Donc, il s'appelle Graffiti Pete. Donc, vous voyez, il y a tous ces petits moments. Il y a Abuela Claudia. Alors, elle, elle est inspirée du personnage qui s'inspire de ma nounou. Elle avait élevé mon père à Porto Rico quand il était gamin. Et quand moi, je suis né, elle nous a accompagnés à New York pour élever ma sœur et moi. C'était une joueuse compulsive, Claudia. Elle jouait à la loterie tous les jours. Donc, une des questions qui se pose dans le spectacle, c'est que ferait-elle si elle gagnait le gros lot? Est-ce qu'elle retournerait vers son île? Dans le spectacle, c'est Cuba, mais en réalité, dans ma vie, c'est Porto Rico. Donc, vous voyez, il y a ces petits détails autobiographiques, oui.
Alors, qu'est-ce qui a évolué, du coup, en 10 ans, entre le moment où vous commencez à l'écrire, In the Heights, et le moment où c'est monté sur scène à Broadway?
Everything.
Tout.
The only thing that
la seule chose, c'est 5 notes.
In Washington Heights. Everything else is different.
Tout le reste, c'est différent. Parce que j'ai commencé à écrire quand j'avais 19 ans. Pour la première à Broadway, j'avais 28 ans. Et c'était mon apprentissage. Je travaillais seul au début. Puis j'ai travaillé avec Tommy Cahill. Et ça, c'était un des grands moments de collaborer avec quelqu'un comme Tommy Cahill qui voulait raconter la même histoire que moi. Puis est arrivée Chiara, ma co-auteure. Et là encore, ça a changé. Parce que plutôt que d'une histoire d'amour qui se passait à Washington Heights, c'est devenu une histoire d'amour à propos de Washington Heights. Et c'est Chiara qui a donné cette dimension-là.
Lights up on Washington Heights, up at the break of day. I wake up and I got this little punk I gotta chase away. Pop the grade at the crack of dawn, sing while I wipe down the awning. Hey y'all, good morning.
Ice cold piragua, parcha, china, cherry, strawberry, and just for today, I got mamey.
Oye, piraguero, ¿cómo estás?
Como siempre, señor Usnavi.
I am Usnavi, and you probably never heard my name. Reports of my fame are greatly exaggerated, exacerbated by the fact that my syntax is highly complicated, cause I immigrated from the single greatest little place in the Caribbean, Dominican Republic. I love it, Jesus, I'm jealous of it, and beyond that, ever since my folks passed on, I haven't gone back. God damn, I gotta get on there. Oh, the milk is gone, Dad, hold it just a second. Why is everything in this fridge warm and tepid? I better step it up and fight the heat, cause I'm not making any profit if the coffee isn't light and sweet. Abuela, my fridge broke. I got café, but no con leche.
Try my mother's old recipe. 1 can of condensed milk.
Nice.
Ay, paciencia y fe.
That was Abuela. She's not really my abuela, but she practically raised me. This corner is her escuela now. You probably thinking, I'm up Schitt's Creek. I never been north of 96th Street. Well, you must take the A train. Even farther than Harlem to northern Manhattan and maintain. Get off at 181st and take the escalator. I hope you're writing this down. I'm gonna test you later. I'm getting tested. Times are tough on this bodega. 2 months ago, somebody bought Ortegas. Our neighbors started packing up and up, and ever since the rents went up, it's gotten mad expensive, but we live with just enough.
In the Heights, I flip the lights and start my day. There are fights and endless debts and bills to pay. In the Heights, I can't survive without a bay.
I'm so
or see their daughter Nina's off at college. Tuition is mad steep, so they can't sleep. Everything they get is mad cheap.
Good morning, Musnavi.
Pan caliente, café con leche.
Put $20 on today's lottery.
One ticket, that's it.
Hey, a man's got a dream.
Don't mind him, he's all excited, cause Nino flew in at 3 a.m. last
night. Don't look at me, this one's been cooking all week.
Musnavi, come over for dinner.
There's plenty to eat.
So then Yesenia walks in their room. She smells sex and she perfumes. It smells like one of those trees that you hang from the rear view.
No,
it's true. She screams, who's in there with you, Julio? Grabs a bat and kicks in the door. She's in bed with Jose from the liquor store.
No me diga. Daniel and Carla from the salon.
Thanks, Usnavi.
Sonny, you're late.
Chillax. You know you love me.
Me and my cousin running, just another dime a dozen. Mom and pop stopping shop. And oh my God, it's gotten dude on hot. Like my man Cole Porter said, people come through for a few cold waters and a lottery ticket, just a part of the routine. Everybody's got a job, everybody's got a dream. They gossip as I sip my coffee, you smirk. The first stop is people hop to work. What's it? I like $1, $2, $1.50, $1.69. I got it. Condoms, what kind? That's two quarter waters. The New York Times, you need a bag for that, the taxes added. Once you get some practice at it, you do rap mathematics automatically. Selling maxi pads, fuzzy bags for taxi cabs. Practically everybody's stressed, yes, but they press through the mess. Bounce checks and wonder what's next.
In the Heights, I find my coffee and I go.
L'ouverture de In the Heights, la toute première comédie musicale à Broadway de Lin-Manuel Miranda.
42e rue, Laurent Vallière, France Musique.
Lin-Manuel Miranda, l'invité exceptionnel de 42e rue aujourd'hui. Je dis exceptionnel car c'est une superstar à Broadway grâce à Hamilton. Une comédie musicale Hamilton qui ouvre Off-Broadway en 2015. Les plus grandes stars s'y pressent, le spectacle affiche immédiatement complet et il ouvre quelques semaines plus tard à Broadway où il est toujours à l'affiche avec des billets au marché noir qui s'arrachent à plusieurs milliers de dollars. Hamilton, c'est l'histoire de l'un des fondateurs les plus méconnus des États-Unis, Alexander Hamilton, immigré venu des Antilles, qui se bat auprès de George Washington, l'aide à rédiger la Constitution américaine et devient aussi secrétaire au Trésor. Son portrait est sur les billets de 10 dollars, avec un destin tragique et un spectacle en fait en costume au son de la musique rap et hip-hop. Aujourd'hui, les professeurs américains utilisent Hamilton pour enseigner l'histoire de leur pays aux petits Américains. Et c'est inspiré d'une biographie de Alexander Hamilton qui avait été écrite par Ron Chernow. Lin-Manuel Miranda, c'est vrai qu'au départ, vous aviez tout simplement pris ce gros livre de 800 pages en vacances?
It was a... This is pre-Kindle,
mais
guys.
Oui,
this is pre-e-readers.
On est avant Kindle, avant les liseuses, là. Hein. Donc, je n'avais pas une liseuse avec 20 livres hein, pour mettre dans mon sac à dos. Donc, je cherchais un livre pour emmener en vacances. Puis, j'ai trouvé ce gros bouquin, là. Moi, j'avais écrit un article ou un devoir sur Hamilton au lycée. Tout ce que je savais, c'était qu'on avait son portrait sur le billet de 10 dollars. Son fils était mort dans un duel, et lui, 3 ans plus tard aussi. Et je me dis, mais voilà une erreur qu'on peut éviter facilement. Ton fils est mort il y a 3 ans, mais pourquoi toi? Qu'est-ce que tu fais là? Bon, ça a aiguisé ma curiosité. J'ai pris le livre, je l'ai emmené en vacances. J'ai pris un autre livre aussi, parce que j'avais une semaine de congé de In the Heights, arrivé au deuxième chapitre. Et je suis allé sur Internet et je me suis dit, mais quelqu'un a déjà fait une comédie musicale? Mais ce n'était pas le cas. Et ben je me suis lancé.
Et dès le départ, vous pensez à en faire une comédie musicale hip-hop?
Ah bah oui, dès que j'ai commencé à lire. Parce que le hip-hop, c'est la seule façon de raconter cette histoire. Il était écrivain, Hamilton. Il était hyper verbeux, il s'exprimait sans arrêt, il écrivait des pages et des pages. Je me dis, le hip-hop, c'est la seule façon de condenser cette histoire en racontant autant de choses. Et puis, il partage pas mal de choses avec mes rappeurs préférés. Il parlait de ses combats tellement bien. D'ailleurs, il a transcendé ses luttes. Il a parlé d'un ouragan qui a
avait détruit Sainte-Croix. C'est pourquoi il y a eu des dons qui ont été faits. Les gens sont partis vers les colonies pour être éduqués dans ce qui devait devenir les États-Unis. Et c'est vrai pour Eminem de Détroit, Jay-Z de Brooklyn, Notorious B.I.G., qui vient du même quartier défavorisé de Brooklyn que Jay-Z. D'ailleurs, eux, ils parlent de leur combat, de leurs problèmes, de ce qu'ils connaissent, et de façon brillante. Et du reste, ça devient universel. Et Hamilton, c'est la même chose. Et je me suis dit, Hamilton, c'est un héros de hip-hop. Et j'arrivais pas à croire que personne ne s'est emparé de l'histoire. J'étais si content d'être le premier.
How does a bastard, orphan, son of a whore and a Scotsman, dropped in the middle of a forgotten spot in the Caribbean by providence, impoverished and squalor, grow up to be a hero and a scholar? The $10 founding father without a father got a lot farther by working a lot harder, by being a lot smarter, by being a self-starter. By 14, they placed him in charge of a trading charter.
And every day while slaves were being slaughtered and carted away across the waves, he struggled and kept his guard up. Inside, he was longing for something to be a part of. The brother was ready to beg, steal, borrow, or barter.
Then a hurricane came and devastation rained. Our man saw his future drip, dripping down the drain. Put a pencil to his temple, connected it to his brain, and he wrote his first refrain, a testament to his pain.
Well, the word got around, they said this kid is insane, man. Took up a collection just to send him to the mainland. Get your education, don't forget from whence you came, and the world's gonna know your name. What's your name?
Alexander Hamilton. My name is Alexander Hamilton. And there's a million things I haven't done. But just you wait, just you wait.
When he was 10, his father split, full of it, debt-ridden. 2 years later, see Alex and his mother bedridden, half dead, sitting in their own sick, the scent thick.
And Alex got better, but his mother went.
Moved in with a cousin, the cousin committed suicide. Left him with nothing but ruined pride. Something new inside a boy saying,
Alex, you gotta fend for yourself.
He started retreating and reading every treatise on the shelf.
There would have been nothing left to do for someone less astute. He would have been dead and destitute without a cent or restitution. Started working, clerking for his late mother's landlord. Trading sugar cane and rum and all the things he can't afford. Skimming for the future, see him now as he stands on the bow of a ship, heading for a new land. In New York, you can be a new man.
New York, you can just be a new man. New York, you can just be a new man. New York, you can be a new man.
New York,
New York,
just you.
Died for him.
Me, I trusted him.
Me, I loved him.
And me, I'm the damn fool that shot him.
There's a million things I haven't done, but just you wait.
What's your name, man?
Alexander Hamilton.
L'ouverture d'Hamilton de Lin-Manuel Miranda. Avant de le retrouver, c'est le moment de vous offrir, comme chaque semaine jusqu'à Noël, un cadeau, 42e rue, le livre, La grande histoire des comédies musicales qui paraît chez Marabout et France Musique. La semaine dernière, il fallait répondre West Side Story qui n'a pas été composé par Stephen Sondheim, mais vous le savez tous, par Leonard Bernstein. Voici la question de la semaine pour tenter de gagner le livre. Comment s'appelle le groupe de hip-hop créé par Lin-Manuel Miranda à la fac? Freestyle Love Supreme, Love, Sex and Rock'n'Roll ou Ariana Grande Supreme? Vous avez la réponse, vous allez sur la page de 42e rue sur francemusique.fr et vous cliquez sur Contact. Lin-Manuel Miranda, on peut le dire que Hamilton est le premier grand succès de comédie musicale hip-hop, un succès mondial. Il y avait eu d'autres comédies musicales hip-hop auparavant?
Well, there had been many attempts and there's
oui,
been lots of
pas mal de tentatives et il y a eu pas mal de hip-hop au théâtre, mais intégrer le hip-hop dans une forme de comédie musicale, ben c'est très chouette parce que c'est nous qui établissons les règles. Ça a très peu été fait. C'est pas simplement le fait qu'il rappe, ça s'arrête pas là. Parce que quand Hamilton rappe, lui, il rappe comme Eminem ou il rappe comme Big Pun. Il rappe comme mes rappeurs préférés qui aiment faire du rap. Non, pas simplement en fin de vers. Ils aiment bien faire des rimes de façon polysyllabique. Qu'est-ce qu'on peut faire? 7 rimes à la suite? 8 rimes à la suite? Ça, pour moi, ça reflète son intellect. Angelica, elle rappe à grande vitesse parce qu'elle est très intelligente. Elle aussi, du reste, elle est plus intelligente que Hamilton dans notre récit à nous. George Washington, lui, quand il rappe, alors là, on est dans une cadence métronomique. C'est un homme militaire, hein, et c'est un penseur militaire. Donc son flow reflète sa vitesse de pensée. Donc pour moi, c'était une façon de déverrouiller les personnages.
Alors ensuite, Lin-Manuel Miranda, ce qui frappe dans Hamilton, c'est cette troupe multi-ethnique. Lafayette est joué par un acteur noir, Hamilton par vous, d'origine portoricaine. Pourquoi une troupe multi-ethnique?
C'est simple. Si je vous disais que je voulais faire une comédie musicale hip-hop et R&B en comédie musicale avec que des blancs, vous vous diriez, mais c'est quoi cette affaire? Ils sont complètement plantés. Le hip-hop et le R&B, ça a été créé par des Noirs et des Métis dans le Bronx. Du reste, c'est une des grandes formes d'expression artistique des Noirs et des Métis. Ça a été créé par des Portoricains, des Afro-Américains qui ont créé ça à partir des cendres du South Bronx. Et c'est d'une très grande beauté, cet art du rap. C'est un de mes arts préférés des États-Unis d'ailleurs. Donc il nous fallait des artistes qui puissent refléter cette musique sur scène. Et moi, je pensais à un concept album comme Jésus-Christ Superstar. Donc je me suis jamais dit quelle était la ressemblance physique des personnages historiques. Non, quelle est la voix dont j'ai besoin? Quel est l'équivalent hip-hop de George Washington ou de Hamilton? C'est ça ma question. Donc j'imaginais jamais le personnage historique. On sait qui c'est, ils sont sur les billets de banque. Ça suffit maintenant. On sait très bien du physique de George Washington. Il y a Mount Rushmore avec ça. On le voit en immense d'ailleurs. Il fallait trouver l'équivalent musical de ces fondateurs des États-Unis. Puis Tommy Kate a choisi les artistes pour le spectacle. Tommy est allé encore un peu plus loin. Parce que quand on voit George Washington sur scène, il ne ressemble pas vraiment à ce à quoi on s'attend. Tout à coup, on voit un personnage et on n'est pas là en train de se dire bon, il va traverser le Delaware, il va écrire la Constitution et puis il va devenir là comme ça avec la main sur la poitrine. Non. Il faut quand même remettre les choses en perspective, mais provoquer l'imaginaire. Et en fait, ça apporte une grande contribution au récit.
Merci beaucoup, Lin-Manuel Miranda, d'être venu sur la 42e rue. Vous pouvez nous dire quand même un petit peu, quelques mots, quelle sera votre prochaine comédie musicale ?
En tout cas, je peux vous dire que j'ai trois idées. Je ne sais pas si elles s'appliquent au cinéma ou à un spectacle vivant. Il faut que j'écrive un peu plus pour le savoir. Mais la grande leçon que j'ai tirée de Hamilton, c'est qu'il faut prêtez attention à la petite idée au fond de la classe qui lève la main pour dire « et moi, et moi ». Parce que, en fait, j'ai les droits d'un livre qui s'appelle « Je m'appelle Asher Lev » de Chaim Potok, un de mes livres préférés que j'ai lu quand j'étais gamin. Et j'avais une fenêtre de 2 ans pour écrire ça, puis déboule Hamilton qui dit en criant « et moi, et moi, et moi ». Et j'ai laissé filer l'option du livre. Donc j'étais effondré parce que j'adore le livre. Mais l'idée n'est pas partie. Le livre veut se faire rire. Donc, pour répondre à votre question, j'attends l'idée qui lève la main et qui dit « et moi, et moi, et moi ».
1789. How does the bastard, orphan, immigrant, decorated war vet, unite the colonies through more debt. Fight the other founding fathers till he has to forfeit. Have it all, lose it all. You ready for more yet? Treasury Secretary, Washington's the president. Every American experiment sets a precedent. Not so fast, someone came along to resist him. Pissed him off until we had a two-party system. You haven't met him yet, you haven't had the chance, 'cause he's been kicking ass as the ambassador to France. But someone's gotta keep the American promise. You simply must meet Thomas, Thomas.
There is no more status quo, but the sun comes up and the world still spins. I helped Lafayette draft a declaration, then I said I gotta go. I gotta be in Monticello. Now the work at home begins. So what did I miss? What did I miss? Virginia, my home sweet home, I wanna give you a kiss. I've been in Paris meeting lots of different ladies. I guess I basically missed the late 80s. I traveled the wide, wide world and came back to this. There's a letter on my desk from the president. Haven't even put my bag down yet. Sally BLM, darling, won't you open it? It says the president's assembling a cabinet, and then I end up being the Secretary of State. The rolling fields, I can't believe that we are free. Ready to face whatever's awaiting me in NYC. But who's waiting for me when I step in the place? My friend James Madison, red in the face. He grabs my arm and I respond, what's going on?
Thomas, we are engaged in a battle for our nation's very soul. You get us out of the mess we're in. Hamilton's new financial plan is nothing less than government control. I've been fighting for the South alone. Where have you been?
France.
We have to win.
Well, what did I miss?
What did I miss?
What did I miss? Meeting today, yeah, I guess I better think of something to say. I'm already on my way to get to the bottom of this.
Mr. Jefferson, welcome home.
Mr. Jefferson, Alexander Hamilton.
Mr. Jefferson, welcome home.
Mr. Jefferson, welcome home, sir.
So what did I miss?
David Diggs, l'acteur noir David Diggs, incarne Lafayette et Jefferson dans Hamilton à Broadway. Grand merci Lin-Manuel Miranda et grand merci Xavier Combes pour la traduction. Le retour de Mary Poppins, c'est mercredi au cinéma. Vous le savez, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast de 42e rue et nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous conseille samedi et dimanche prochain un ciné-concert à ne pas rater à la Philharmonie de Paris, Chantons sous la pluie, avec Patricia Kelly, la veuve de Gene Kelly, qui sera notre invité dimanche prochain. Laurent Vallière, Xavier Atto, Perrine Mainguy, Martine Moni, on vous souhaite une très bonne journée.
Rideau.
À réécouter sur francemusique.fr.